Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles and told of the nectar of the vines.
Bonjour à tous et à nouveau un décompte dans notre feuilleton haletant, celui du Brexit. C'est donc demain que le Parlement doit se prononcer sur l'accord conclu entre la Première ministre Theresa May et l'UE sur les conditions du départ britannique. Autant dire que le débat promet d'être houleux. Les partisans du Brexit sont de moins en moins certains de pouvoir sabler non pas le champagne mais le mousseux britannique le 29 mars prochain à 23h heure locale. Les viticulteurs justement. Ils sont de plus en plus nombreux en Grande-Bretagne portés par le réchauffement climatique et comme tous les acteurs de l'économie, ils s'inquiètent terriblement des conséquences d'un Brexit sans accord ou même d'un Brexit tout court à moins que le renchérissement des vins français avec les droits de douane ne fassent leurs affaires. Reportage dans le sud de l'Angleterre, signé Marie Billon.
Anna et Ben sont de jeunes viticulteurs. Ils ont créé Flynn Vineyard dans la région du Suffolk, à l'est de l'Angleterre, il y a 3 ans. Le couple a fait ses premières vendanges cet automne. Ils ne pensaient pas que 2016 serait l'année de leur nouvelle aventure et aussi celle du vote du Brexit. S'ils ont pu abandonner leurs emplois respectifs pour se former à l'œnologie et créer Flynn Vineyard, c'est en partie grâce à des fonds européens. En descendant l'un de leurs plants de vigne, la jeune femme s'inquiète un peu pour leur avenir si le robinet des financements est fermé à cause de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.
Si on n'a plus accès à ce genre d'aide, ce sera un problème. Nous n'aurions pas pu nous établir comme nous l'avons fait sans ce coup de pouce. Je sais que le gouvernement britannique réfléchit à la manière de remplacer ce type de subvention. Ben et moi avons été consultés par les autorités pour les aider à créer leur propre mécanisme d'aide. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.
Ben et Anna ont décidé d'avoir leur propre pressoir, juste à côté de leur maison, dans une ancienne grange. Mais ils ont dû investir juste après le vote du Brexit, pile quand les marchés ont commencé à s'inquiéter.
La chute de la livre face à l'euro a été en notre défaveur. Nous devons acheter beaucoup de nos équipements en Europe. Nos cuves, nos barriques et d'autres outils viennent de France. On va donc les payer plus cher. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, par contre, on ne va pas être affecté parce qu'on emploie des locaux.
Le Suffolk est une région très agricole où il n'est pas trop difficile de trouver des gens qui savent et aiment travailler la terre. Mais au sud de Londres, dans la région du Kent, Mike Wagstaff s'attend à rencontrer plus de problèmes. Comme Anna, le vigneron a voté contre le Brexit et c'est notamment parce que beaucoup de ses employés, à temps plein ou saisonniers, sont européens.
Nous avons 2 Français qui ont un niveau d'expertise très élevé et nous avons des travailleurs migrants qui viennent surtout de Roumanie. Nous les employons à travers une agence que nous utilisons en fait toute l'année. Lorsqu'il y a des périodes qui demandent beaucoup de travail et qui ne peut pas se faire qu'à nous 3, nous faisons appel à elles. Mais pour les vendanges en particulier, je crois que ce sont des milliers d'Européens de l'Est qui viennent en Angleterre chaque année. J'aimerais bien employer des locaux, mais à l'automne, les étudiants sont repartis à l'université et le ramassage est un travail très dur.
Loïc, le maître de chez, n'est pas rassuré non plus en retournant les bouteilles qui attendent d'être étiquetées. Le vin anglais est encore très dépendant de ses grands voisins français, dit-il.
Je pense que ça va poser souci pour la suite en termes de recrutement, parce qu'il n'y a qu'une seule université, je crois, de tête. Mais quand même, il y a de l'emploi, en tout cas dans le vignoble, parce que les vignobles continuent à exploser. Mais pour l'instant, il y a quand même un gros manque de personnes. Voilà. Et c'est pour ça que la plupart des winemakers, donc les maîtres de chez, australiens, néo-zélandais, français et italiens, c'est 4 grandes catégories qu'on retrouve en Angleterre pour l'instant. Ils ont besoin de ces personnes-là pour faire un peu marcher le business pour le moment, en tout cas. Et donc le gros problème, ça va être sûrement de trouver ces personnes, d'aller les chercher, mais comment ? À cause du Brexit, comment et sous quelles conditions ?
A priori, ces experts devraient pouvoir obtenir un visa de travailleur qualifié. Mais ce sera du travail en plus pour Mike, qui préfère être dans les champs que dans son bureau.
Je suis sûr que ça voudra dire plus de paperasse qu'à présent avec la liberté de mouvement. Je suis énervé. Toute cette pagaille du Brexit n'était pas nécessaire. Mais ces 10 dernières années, le vin anglais s'est énormément amélioré. Un processus qui coïncide avec de nouvelles habitudes pour les consommateurs. Ils aiment savoir d'où provient ce qu'ils boivent et mangent. Pas que leur vin, leur bière, leur gin, leurs fruits, leurs légumes. Ils veulent bien payer un peu plus cher pour consommer des aliments qui ont une histoire comparée à ce qui vient banalement d'un étalage de supermarché.
Tu nous prépares l'étiquetage ?
L'étiquette des bouteilles est justement étudiée pour avoir ce petit cachet artisanal. Et Guillaume, le manager, l'autre français de l'équipe, l'école lui-même à la main. Il est tout à fait d'accord avec l'analyse optimiste de son patron, mais de toute façon, le Brexit, ça ne l'inquiète pas.
Alors, ça va clairement avoir un effet positif sur la demande, tout simplement parce que le prix des vins, de manière générale, le marché va augmenter, ça va coûter plus cher. Taux de change pour ce qui est import champagne, le champagne va sûrement augmenter plus que le vin qui est produit à quelques kilomètres de chez soi, donc il y aura forcément un intérêt qui va être généré. Les gens vont commencer à se demander qu'est-ce qu'on produit nous ? Et vu que c'est un marché qui est en pleine expansion de toute manière, avec ou sans Brexit, ça va juste avoir un effet positif. On va sûrement avoir plus de demandes. Et peut-être qu'un jour, les gens vont remettre en question. On va boire du champagne ou du vin anglais.
C'est un optimisme que partage assez largement l'industrie anglaise du vin, même si les conditions de la sortie de l'Union européenne diront si ce petit plus suffira à faire du Brexit une vraie opportunité ou un nouvel obstacle pour les viticulteurs. I wish I was a fisherman, tumbling on the seas.
Incertitude encore sur mer, cette fois. En cas d'accord, on ne commencera à discuter du sort des pêcheurs européens et britanniques qu'à l'été 2020. Mais en cas de Brexit dur, sans accord, tout tombe à l'eau. Dès le 29 mars, toutes les eaux britanniques très poissonneuses seront interdites d'accès aux flottes européennes. Pour les 48 000 personnes qui vivent de la pêche en France, ce serait une catastrophe. Après des décennies de tensions entre pêcheurs, c'est l'inquiétude. Reportage dans le port de Dieppe en Normandie, signé Juliette Rangeval.
Des véritables scènes de bataille navale captées par les caméras de France 3 Normandie dans la baie de Seine fin août ont rappelé à tout le monde l'état des relations entre pêcheurs britanniques et français.
Oui, certaines relations, bon après je pense pas que ce soit les meilleures du monde, hein, parce que bon... Après, ce qu'il faut, c'est que la loi soit la même pour tout le monde, hein, parce que c'est pas possible de laisser un bateau anglais pêcher la coquille et que les bateaux français le regardent travailler. Hein.
Au départ, comme le rappelle Éric Augustin de la Criée de Dieppe, les accrochages ont commencé sur des questions de droit de pêche, mais entre aussi dans l'équation désormais la perspective du Brexit, et notamment d'un Brexit dur. En l'absence d'accord, le 29 mars prochain, les pêcheurs européens n'auront plus accès aux eaux britanniques. Ce serait une catastrophe pour les pêcheurs français. La moitié d'entre eux pêchent dans cette zone. Des Bretons, des Normands, des navires venus des Hauts-de-France, dans le Nord, mais aussi d'Aquitaine ou des Pays de la Loire, dans le Grand Sud-Ouest. Et dans ces eaux, particulièrement poissonneuses, ils capturent lieu noir, hareng ou merlan. Madame Joffin vend le produit de la pêche de son fils. On la trouve tous les matins bien avant 6h à côté de la criée. En cette saison, elle décortique les coquilles Saint-Jacques. Plus tard dans l'année, son bateau partira dans les eaux du Royaume-Uni.
Le souci avec le Brexit... C'est qu'on n'ose pas avoir trop dehors avec les Anglais parce que l'été au niveau du chalut, et on va pêcher sur leur côte. Mais vraiment là, sur leur côte, dans leurs eaux. Donc on est assis entre deux chaises, quoi.
Appel en cours. En communication.
Bonjour. Oui, bonjour, c'est Juliette Rangeval, RFI.
Porte ouverte.
Merci.
À Paris, au siège du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le directeur général Hubert Carré ressent bien cette inquiétude des pêcheurs.
Dans la construction européenne, la pêche a toujours été un des sujets de crispation, voire de difficulté. Et on avait bien vu qu'il y avait une volonté des pêcheurs britanniques de s'accaparer de nouveau leurs ressources. Ils avaient l'impression que leurs poissons étaient volés par les pêches européennes. Et donc, on avait senti très très net qu'il y avait cette volonté de faire de la pêche, un des enjeux importants du Brexit.
La pêche au niveau européen, c'est 116 000 pêcheurs, 115 000 emplois. À l'échelle française, 48 000 emplois dans des communautés qui n'ont souvent pas d'autres sources de revenus.
La particularité du Brexit, c'est que ça menace tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire que ça touche aussi bien le bateau de 8,50 m jusqu'au bateau de 80 m qui fréquente les eaux britanniques.
Alors, dès le résultat du référendum connu, les Français se sont rapprochés de leur gouvernement et du président de la République, mais ça a été aussi l'occasion de travailler plus étroitement au niveau européen.
C'est vrai qu'avec les autres acteurs de la pêche européenne, on avait les les mêmes intérêts et puis les mêmes craintes. Bon, la France est assez impactée, mais on peut dire que les Hollandais, les Danois vont l'être davantage. Et c'est vrai que ça nous a obligés à nous rapprocher. On se connaissait, on travaillait déjà ensemble dans le cadre d'un certain nombre de commissions. Mais là, on a créé un partenariat pour faire une pression sur nos gouvernements respectifs et aussi être considéré comme l'interlocuteur de Michel Barnier.
Le Brexit, qui dans ce domaine aura contribué à renforcer la solidarité européenne.
Et en Irlande, premier partenaire commercial du Royaume-Uni dans l'agroalimentaire, on s'inquiète dans les plus hautes sphères de l'État d'un Brexit dur. Pourrait-il y avoir une pénurie de plats cuisinés, voire même de pommes de terre? Quelques éléments de réponse avec notre correspondant à Dublin, Julien Lagache.
Personne n'aura faim en Irlande après le Brexit, ne cesse de répéter le Premier ministre Leo Varadkar. Plutôt alarmiste dans un pays dont l'histoire est marquée au fer rouge par la famine, en l'occurrence le chef du gouvernement se voulait rassurant alors que les scénarios les plus fous circulent sur les conséquences d'un Brexit sans accord. Une inquiétude renforcée par les chiffres. Le Royaume-Uni est à la fois le premier client et le premier fournisseur de l'Irlande dans le secteur de l'alimentation et de la boisson. Avec près de 4 milliards d'euros en 2017, il pèse même pour moitié dans les importations irlandaises. Cependant, le gouvernement minimise. Oui, certains rayons de magasins pourraient être vides faute d'un accord commercial entre l'UE et Londres d'ici 3 mois. Mais cela devrait toucher surtout les plats préparés et les magasins les plus dépendants d'un approvisionnement britannique. On parle aussi d'une menace sur les frites, car ce ne sont pas les patates produites en nombre sur le sol national qui garnissent les fish and chips dont les Irlandais raffolent autant que les Britanniques, mais bien des tubercules venus d'Angleterre. À ce climat de nervosité, il faut ajouter le commentaire début décembre d'une ex-ministre conservatrice britannique. Elle semblait regretter que Londres ne se soit pas servi d'une possible pénurie comme argument de négociation avec l'UE pour obtenir un meilleur accord, avant d'expliquer que sa citation avait été tronquée. Toujours est-il que ces propos ont déclenché un tonnerre de condamnations en Irlande. Le sujet est sensible au regard de l'histoire. Les Irlandais jugent d'ailleurs toujours qu'au XIXe siècle, l'occupant britannique avait été responsable de la Grande Famine. Malgré le contexte, cependant, Dublin se montre confiant. Le pays produit et exporte davantage qu'il n'importe, soulignent les autorités, qui n'envisagent pas de constituer des stocks alimentaires, au contraire d'un certain nombre de médicaments génériques importés en nombre du Royaume-Uni et dont l'Irlande a prévu de se constituer une réserve en cas de Brexit dur.
Médicaments. Voulez-vous prendre ceci, je vous prie?
Et l'industrie du médicament est impactée au plus haut point par la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE. Le marché est vital pour les industriels allemands qui ont écoulé outre-Manche 12 milliards d'euros de produits, sans parler des entreprises pharmaceutiques allemandes qui produisent sur le sol britannique. L'hypothèse d'une pénurie est désormais prise très au sérieux. Les explications depuis Berlin de Julien Méchaussy.
Nous ne savons pas où nous allons et nous n'avons aucune information de la part de nos partenaires britanniques. Si cette phrase peut s'appliquer à de nombreux secteurs économiques, elle concerne ici le très sensible secteur pharmaceutique. Ce constat, qui n'invite pas à l'optimisme, est posé sur la table par la Fédération allemande des producteurs de médicaments. Car en Allemagne, l'industrie pharmaceutique est le secteur qui a le plus souffert de la sortie annoncée de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. La perspective d'un possible retour des droits de douane et surtout de nouvelles réglementations ont fait chuter de 20% les exportations allemandes. Mais si l'Allemagne exporte beaucoup vers la Grande-Bretagne, l'inverse est également vrai. Avec 2600 différents médicaments produits, 45 millions de boîtes de médicaments quittent ainsi chaque mois le territoire britannique, pour beaucoup, vers le marché allemand, 37 millions faisant le chemin inverse. Et à un jour du vote du Parlement sur le Brexit, personne ne peut affirmer comment ces échanges vont pouvoir perdurer. La Fédération européenne des industrie pharmaceutique a d'ailleurs emboîté le pas à l'Allemagne et a déjà demandé à ses membres de se préparer à de lourdes pertes. Un autre aspect alimente cependant les peurs sur le plan sanitaire. Le Brexit va également provoquer une sortie des règlements sanitaires européens. Chaque médicament exporté devra alors être soumis à un examen dans des laboratoires de l'Union européenne. Ceci est particulièrement vrai pour les vaccins dont la Grande-Bretagne est une importante productrice. Un processus long et complexe qui pourrait déboucher à moyen terme sur des pénuries.
Ouais. Témoin infatigable des soubresauts européens, le journaliste Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles pour Libération, revient en ce début d'année sur la monnaie unique. Son dernier livre, « Il faut achever l'euro », aux éditions Calmann Lévy, est à comprendre comme un plaidoyer pour plus d'intégration économique. On y apprend que les Britanniques ont, dès le départ, voulu influer sur la monnaie unique sans vouloir l'adopter, une attitude très caractéristique de leur rapport à l'Europe. Un pied dedans, un pied dehors, comme il l'a expliqué à Catherine Roland.
Accepter d'être dans l'Union européenne et d'être soumis à des règles les mêmes que les autres, c'était quelque chose d'absolument impossible dans la mentalité britannique. Et donc, ils se sont constitués, petit à petit, un statut à part. Ça a été vrai sur le plan budgétaire, hein, je vous rappelle les années 80, avec Margaret Thatcher, « I want my money back ». Ensuite, ça a été vrai pour la monnaie unique, ça a été vrai pour l'immigration, pour l'asile, pour Schengen, etc.
Et on en arrive donc aujourd'hui au Brexit avec cette volonté encore d'avoir un pied dehors, un pied dedans, donc de faire le grand écart. C'est là où ça coince, justement.
Là, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on passe de un pied dedans, un pied dehors, à un pied dehors, à un pied dedans. Hein. C'est un peu leur idée. C'est-à-dire que leur but, c'est absolument extraordinaire. Ils ont essayé de l'obtenir durant 2 ans, hein, depuis le référendum de juin 2016. C'était en gros de continuer à avoir les avantages du marché intérieur, donc de faire circuler librement leurs marchandises, leurs biens et leurs services, sans appliquer les normes européennes, alors que, évidemment, c'est absolument impossible. Et ils ont été très surpris que les Européens tiennent bon et unis face à leurs exigences. Et c'est pour ça qu'ils se sont extrêmement mal à l'aise, parce qu'aujourd'hui, le statut qu'ils ont négocié avec le fameux accord de divorce, eh ben, leur fait prendre conscience qu'ils ne pourront pas rester et dedans et dehors.
Alors, vous rapportez justement les propos d'un négociateur, un diplomate français qui était plutôt amusé et qui disait, je cite, « On a l'impression que c'est l'Union qui quitte le Royaume-Uni et non l'inverse. »
C'est exactement ça. L'hubris des Britanniques dépasse effectivement toute mesure. Et je crois que là, ils sont en train de se rendre compte que la vision qu'ils avaient de l'Union européenne n'est pas la bonne. Et franchement, pendant 1 an et demi, moi j'ai assisté à leur manœuvre, ils ont tenté de diviser les Européens. Mais les Européens ont tenu bon. Pourquoi ? Parce que le vrai danger, et ils l'ont compris tout de suite, c'était que, c'est d'abord qu'ils partaient en ordre dispersé, c'est tout le projet européen qui était menacé, et que ça risquait, en accordant un statut particulier à la Grande-Bretagne, tel que celui qu'elle demandait, de nourrir leurs propres europhobes et leurs propres eurosceptiques qui demanderaient le même statut, en disant, bah, après tout, si la Grande-Bretagne a ce statut-là, pourquoi on ne l'aurait pas, nous, les Français, nous, les Italiens, nous, les Espagnols? Et ça, ça a été une sous-estimation totale de la part des Britanniques. Et de même, ils ont totalement sous-estimé l'imbrication de leur économie, de leurs droits au sein de l'Union européenne, d'où les grandes difficultés qu'ils ont à apprécier même les conséquences pratiques que va avoir le Brexit.
Il y a un risque, malgré tout, de no deal. Alors, quel est ce risque, à votre avis? On sait que Theresa May tente de présenter, cette fois, l'accord conclu avec les 27 devant les parlementaires britanniques.
Tous les mes amis en Grande-Bretagne me disent que l'accord qu'elle va présenter va être rejeté. Donc, le no deal semble de plus en plus se préciser. Et ça va être quelque chose de faramineux. Parce que nous, par exemple, les Européens, on a un code douanier qu'on applique. Les Britanniques, ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de combien il va falloir taxer les produits qui vont rentrer chez eux à partir du 30 mars au matin. Les médicaments, par exemple, qui arriveront du continent, les voitures qui arriveront du continent, les marchandises, le pain, tout ce que vous voulez, il va falloir les taxer, il va falloir les contrôler. Quelles normes devront être respectées? Ils ne le savent pas. Ils risquent vraiment d'avoir des ruptures d'approvisionnement. Leurs avions ne pourront plus se poser sur le continent. Du jour au lendemain, il va falloir qu'ils évitent l'Europe. Vous imaginez l'état de British Airways au bout de 2 mois ou de 3 mois ou 4 mois, le temps qu'on négocie un nouvel accord de ce qu'on appelle des accords de ciel ouvert, ça va être dramatique. Mais il y a une grande partie des Britanniques, et notamment des députés britanniques, qui sont prêts à courir ce risque. Ça va être une période passionnante.
Et on retrouve Jean Quatremer la semaine prochaine pour nous parler cette fois d'économie et de monnaie unique. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot et Nicolas Benita. Restez à l'écoute de RFI.